Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Écoutons ce que déclare la Bible.
Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu.
Voici donc le sujet de notre série de discussions actuellement. Que signifie être un enfant de Dieu? Et comment vivre en tant qu'enfant de Dieu?
Yann s'entretiendra avec André afin d'approfondir notre compréhension sur cette vérité si précieuse.
Bonjour André, et merci de revenir sur le plateau d'Espérance aujourd'hui pour nous parler de ce thème biblique si important.
Merci Yann, et bonjour à tous.
André, la dernière fois, nous avons introduit notre sujet en expliquant que l'Éternel désire nous libérer de l'esclavage du péché et des faux dieux pour faire de nous ses enfants. De quoi allons-nous parler aujourd'hui?
Nous allons nous pencher sur des textes bibliques nous montrant la manière de devenir enfant de Dieu. Mais avant, je voudrais faire remarquer que l'apôtre Jean parle essentiellement de la nouvelle naissance, tandis que l'apôtre Paul utilise le terme de l'adoption.
Il existe effectivement deux façons de devenir le fils ou la fille d'un homme et d'une femme. On peut le devenir soit par notre naissance, soit par adoption. Mais ne trouve-t-on pas là une contradiction si la Bible nous présente ces deux possibilités?
À travers la Bible, la naissance et l'adoption sont deux illustrations abordant la même réalité spirituelle. Elles ne nous présentent pas deux façons différentes de devenir enfant de Dieu. Non, ces deux images dépeignent ce que le Seigneur accomplit par sa grâce en faisant de nous ses enfants. Ces deux illustrations se complètent. Elles nous éclairent davantage sur l'amour de Dieu. Je propose aujourd'hui que nous nous penchions sur ce que l'apôtre Jean déclare sur la nouvelle naissance, et la prochaine fois, nous étudierons ensemble l'enseignement de Paul concernant l'adoption.
À propos de la nouvelle naissance, je me souviens des paroles de Jésus lors d'une conversation avec Nicodème. Il lui a alors affirmé que pour voir le royaume de Dieu, il lui fallait passer par la nouvelle naissance.
Oui, nous allons en parler. Mais avant, écoutons les paroles de Jean, chapitre 1, versets 12 et 13.
Certains pourtant l'ont accueilli, c'est-à-dire Jésus. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés.
À travers cette lecture, nous apprenons qu'être enfant de Dieu représente un privilège incroyable que seul l'Éternel accorde à tous ceux qui croient en son Fils, le Seigneur Jésus. Devenir enfant de Dieu est un acte accompli en nous par Dieu, car lui-même intervient afin de faire naître en nous la vie spirituelle. Écoutons à présent un extrait de cette conversation entre Jésus et Nicodème que vous avez évoquée tout à l'heure, Yann. Elle se trouve dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, versets 3 à 6.
Jésus dit à Nicodème, « Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux ? » s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit « Il faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit. Mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. »
André, Nicodème semble fort surpris d'apprendre qu'il faut naître de nouveau. Il ne paraît pas comprendre non plus le sens des paroles de Jésus. Mais certains de nos auditeurs sont peut-être eux aussi tout aussi perplexes.
Oui, c'est vrai. Je vais essayer d'expliquer le sens des paroles de Jésus. Toute naissance représente une vie nouvelle. Toutefois, la nouvelle naissance dont Jésus parle n'est pas physique, elle est spirituelle.
Voulez-vous dire qu'avant de naître de nouveau, nous ne connaissions pas la vie?
C'est exact, Yann, et vos propos sont en accord avec l'enseignement de l'apôtre Paul qui a écrit « Vous étiez morts à cause de vos péchés ».
Et que cela implique-t-il?
Sans la vie, on ne peut apprécier les richesses que le monde renferme. Un bébé qui naît se met à découvrir graduellement ce qui l'entoure et à jouir de ses explorations. Il perçoit l'amour de sa mère et de son père envers lui. Par la vue et l'ouïe, il explore peu à peu le monde dans lequel il évolue. Sans la vie, il serait privé de toutes ses découvertes. Mais revenons à présent au plan spirituel. Sans la vie spirituelle, il est impossible de connaître Dieu. Il est impossible de contempler sa personne et sa beauté. Il est impossible de comprendre sa parole ou de marcher avec lui. De plus, loin de l'Éternel, l'homme demeure privé d'espérance éternelle.
Si donc du fait de notre état naturel, nous sommes morts spirituellement, comment est-il alors possible de recevoir cette vie et de découvrir Dieu?
Il faut, comme le déclare Jésus, naître de nouveau. En fait, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui vient dans notre cœur pour nous donner cette vie. Là, il crée en nous la vie spirituelle, véritable don de Dieu, accordée par sa grâce. Lorsque nous recevons cette vie spirituelle, nous sommes comme le bébé qui naît. Nous commençons à jouir de cette vie, nous commençons à découvrir et à connaître Dieu notre Père, à comprendre la Bible, à saisir les vérités qu'il nous révèle. Tout comme le bébé a beaucoup à apprendre, nous aussi nous devons apprendre sur le plan spirituel. Un bébé doit apprendre à se nourrir. De même, nous devons apprendre la manière de nous nourrir spirituellement pour pouvoir grandir et mûrir dans la foi. Un bébé doit apprendre à marcher. De même, il nous faut apprendre à marcher avec Dieu. Un bébé doit savoir comment se comporter. De même, nous apprenons la façon de nous conduire en tant qu'enfant de Dieu. Un enfant s'exerce à manipuler divers objets. De même, nous devons exercer notre foi à tenir ferme dans les circonstances les plus diverses. Je pourrais multiplier les illustrations, mais je pense que vous avez compris.
Oui, tout à fait, André, et merci. Pour connaître Dieu, pour être un chrétien authentique, il faut obligatoirement passer par la nouvelle naissance.
C'est ça, oui. Sans l'Esprit de Dieu, qui nous accorde par sa grâce cette nouvelle vie spirituelle, nous ne pouvons jouir d'une relation avec Dieu. Cependant, pour rassurer certains de nos auditeurs, je voudrais ajouter qu'il est possible de vivre une nouvelle naissance sans pour autant en avoir entendu parler de cette manière. L'important est de reconnaître ce qui s'est passé en nous, de se souvenir du jour où Dieu nous a parlé, du jour où il s'est révélé à nous, du moment où sa vie a abondé en nous. Autrefois, nous étions spirituellement morts. Mais aujourd'hui, parce que nous connaissons l'Éternel, nous vivons sur le plan spirituel.
Merci André.
Nous continuons dès à présent notre série de courtes méditations bibliques, dont le sujet porte sur la personne de Jésus-Christ, telle qu'il nous est présentée dans le livre de l'Apocalypse.
Le livre de l'Apocalypse fut écrit par l'apôtre Jean, qui reçut des visions extraordinaires de la part du Seigneur Jésus. Le but de son livre est d'encourager les chrétiens à tenir ferme quand confrontés à la persécution et à la souffrance. Hélène va lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, les versets 4 à 6. Ensuite, notre invité Jean-Luc nous fera part de quelques réflexions inspirées sur ce texte.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les mots « Jésus-Christ, le témoin fidèle ». La dernière fois, nous avons appris que, puisque Jésus a vu Dieu, puisqu'il a vécu la mort, nous pouvons avoir foi en ses paroles lorsqu'il nous parle de ces sujets, car il est véritablement un témoin digne de confiance. Toutefois, il existe une deuxième signification contenue dans les mots « Jésus, le témoin fidèle ». Le mot grec, à l'origine, « le témoin fidèle », est « martos », d'où est issu le mot « martyr » en français. Au temps de l'Église du 1er siècle, ce mot a commencé à désigner toute personne qui devait endurer la persécution et la mort en raison de sa foi en Jésus-Christ et sa loyauté pour lui. Ces chrétiens, malgré leur contexte atroce, l'injustice et l'emprisonnement, la torture et les exécutions, lui étaient demeurés fidèles. Mais pourquoi alors Jésus est-il décrit comme le martyr, le témoin fidèle? Parce que lui-même, le premier, est mort de façon injuste et violente pour avoir annoncé aux hommes le message de Dieu. Parce que lui-même, le premier, a choisi de demeurer fidèle à Dieu, au lieu de céder à la violence des accusations qui tombaient sur lui, au lieu de renoncer à sa loyauté envers Dieu son Père, au lieu de fuir loin de ses responsabilités, au lieu de refuser de mourir sur la croix. Parce que lui, le premier, a choisi de demeurer fidèle à Dieu jusqu'au bout. Il a témoigné de sa grâce, quel qu'en fût le prix à payer. Mais pourquoi Jésus est-il décrit comme le martyr, le témoin fidèle? Parce que Jean savait que les chrétiens de son temps, comme ceux de toute époque, allaient rencontrer l'opposition. Ils essuieraient l'injustice, subiraient la violence et la souffrance. Jean voulait encourager ses chrétiens, quelle que serait leur époque, à demeurer fidèles à Dieu, à garder la foi, quel qu'en fût le prix à payer. Jésus nous exhorte à tenir ferme en toutes circonstances. Lui-même a vécu l'oppression, il a subi l'épreuve. Il ne nous demande pas d'accomplir ce qu'il n'a pas réalisé lui-même. Puisque Jésus a souffert, il comprend aujourd'hui toute personne qui ploie sous les fardeaux. Il compatit à nos épreuves et voit notre souffrance. Il est là avec nous. Il nous accompagne et nous soutient. Et le jour viendra où il faudra passer par la mort. En cet instant, il nous accompagnera et nous accueillera dans son royaume, où il n'y aura plus ni larmes ni raison de pleurer.
Merci Jean-Luc pour ces paroles empreintes d'espérance. Nous retrouverons nos deux invités pour la suite de ces séries lors de notre prochaine émission. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.